la prière, le jeûne et la prière. C'est un message ce matin plus qui ne fait pas référence au jeûne, mais il y aura des exemples dans le message concernant des illustrations du Nouveau Testament concernant le jeûne. Alors, frères et sœurs, je vous invite sans plus tarder à regarder avec moi le texte qui se trouve en Actes chapitre 12, et nous allons lire jusqu'au verset 19. Actes chapitre 12, versets 1 à 19. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi » Pierre sortit, le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode, de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante, nommée Rhode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi, et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continue à frapper. Et ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes dans l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Pierre, tu viens m'amener vers toi. Alors, dans ce texte ici, nous avons un exemple d'une prière très, très efficace. Et on va souligner les versets 5. Le verset 5, Pierre était donc gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La question ici que le Seigneur nous laisse, je pense, à méditer, est celle-ci. Est-ce que nos prières sont efficaces? Est-ce que nous voyons des résultats suite à notre intercession? Est-ce que nous prions avec puissance? Certainement, Dieu, dans notre texte, nous demande de prier avec foi. Ce n'est pas exclu dans ce passage. Avec persévérance, ce n'est pas exclu dans ce passage. Par l'Esprit, ce n'est pas exclu dans ce passage, selon sa volonté. Mais ici, il nous demande de prier et de croire que Dieu peut accomplir de grandes choses, au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. En fait, cette prière a obtenu de grands résultats devant Dieu. Pourquoi? Et c'est ce que nous allons regarder ce matin. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'était un temps de persécution. Hérode avait fait tuer par l'épée Jacques, frère de Jean, l'apôtre. Et pour plaire au peuple juif qui était rebelle au Messie, alors maintenant il prit Pierre et le mit en prison. Et vraisemblablement, le mot ici « comparaître » devant le peuple pourrait signifier « condamner ». Le but d'Hérode était en fait de faire condamner Pierre comme il avait tué par les pieds Jacques. L'église était bouleversée et l'église s'est réunie. Oh, le pasteur n'a pas eu besoin de répéter plusieurs fois « venez à la réunion de prière » parce qu'ils sont venus d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée. Ils se sont donnés dans la prière et Dieu a délivré Pierre de façon merveilleuse. Comment se fait-il que nos prières ne soient pas aussi efficaces? Comment se fait-il que nous ne voyons pas toujours les résultats que nous espérons, que nous escomptons? Pourtant, Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son amour n'a pas changé. Son bras puissant est toujours le même. Il n'est jamais fatigué. Ça vous arrive d'être fatigué? Mais lui, Dieu, ne se fatigue jamais. Il est tout puissant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous allez me dire, mais est-ce que toutes nos prières ne sont pas adressées, ne sont-elles pas adressées à Dieu? Qu'elles soient publiques ou privées, ne sont-elles pas toujours offertes à Dieu? La réponse est non. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas toujours conscience de sa présence. Prier Dieu, c'est d'abord, frères et sœurs, bien-aimés, entrer dans sa présence. Nous avons une tendance parfois à nous fixer plutôt sur nos requêtes de prière que sur Dieu lui-même. D'ailleurs, nous sommes distraits par nature. Ça vous est jamais arrivé lors d'une conversation téléphonique ou même d'une conversation tout court, tout d'un coup de perdre le fil parce que votre esprit est allé ailleurs. Vous avez même plus entendu ce que la personne a dit. Et avec Dieu, c'est un peu la même chose. Parfois, nous nous précipitons devant Dieu pour prier sans prendre le temps d'abord d'entrer dans sa présence. Parce que c'est à lui que nous nous adressons. C'est à lui que nous nous tournons. Est-ce que son oreille se penche vers nous? Parfois, non seulement nous n'entrons pas dans la présence de Dieu, mais aussi nous manquons de foi. Nous n'avons pas confiance qu'il nous écoute et la foi, le manque de foi devient un obstacle au fait que notre prière ne sera pas efficace. Nous ne sommes pas dans la présence de Dieu lorsque nous adressons pourtant à Dieu et parfois nous manquons de foi que oui, son oreille est attentive. C'est un problème de foi souvent que nous avons. Comme j'ai dit une fois un dimanche matin, il n'est pas souvent dit dans l'Église qu'un des péchés qui parfois se trouve dans le cœur du croyant, c'est l'incrédulité. Et pourtant, c'est un péché réel que nous devons confesser devant Dieu. Parfois aussi, notre requête, notre fardeau, notre façon même d'exprimer la prière est plus importante que Dieu lui-même. Nous plaçons nos requêtes devant Dieu, mais en fait, la pensée de Dieu ne s'y trouve pas. Et nos prières peuvent devenir aussi machinales, sans vie et sans puissance. Il y a toute une différence de prier conduit dans la présence de Dieu par le Saint-Esprit et de prier par nos propres efforts, nos propres cœurs. Si désireux soit-il, si ému soit-il, s'il n'y a pas la présence de Dieu et la direction du Saint-Esprit, c'est encore des prières que nous fabriquons devant Dieu. Bien sûr que Dieu est miséricordieux, qui comprend le plus profond de notre cœur. Mais reconnaissons que parfois nous allons à Dieu plutôt dans l'effort de nos propres efforts que dans la conduite de la présence de la personne même de Dieu. Est-ce que nos prières s'adressent à Dieu? Est-ce que lorsque nous prions, nous avons Dieu en esprit? La Bible dit, Jésus a dit en Jean chapitre 4 à la Samaritaine que vous devriez adorer Dieu en esprit. Est-ce que vraiment, lorsque nous prions, nous le faisons en esprit? Aussi, j'ai ajouté ceci en méditant ce passage. Ici, ça semble évident, n'est-ce pas? Pierre est en prison, Le sujet de prière pour l'Église est évident. Nous devons prier pour Pierre. Que Dieu le gracie. Alors, l'Église ici est en train de prier. Ils ne disent pas, le texte ne dit pas ici ce qu'ils ont demandé à Dieu. On y reviendra, parce que peut-être ont-ils demandé des choses que Dieu a vraiment exaucées sans qu'ils le croient vraiment. Imaginez cela. En tout cas, peut-être n'avaient-ils pas demandé à Dieu d'envoyer un ange délivrer Pierre. Pourtant, c'est ce que Dieu a fait. Une chose est certaine ici, c'est qu'ils avaient un sujet bien précis. Ils avaient mis leur confiance en Dieu pour demander devant Dieu et plaider pour une chose bien précise. Et parfois, je pense qu'il y a un danger dans nos prières d'être tellement large, d'être tellement généreux, que par exemple, nous allons prier pour les missionnaires dans le monde. Mais nous devons prier pour tel missionnaire, pour tel besoin de tel missionnaire, pour telle situation. Nous pouvons prier pour l'Église persécutée dans le monde. Dieu peut entendre. Mais est-ce que ce ne serait pas plus efficace de prier pour telle situation, pour tel frère, telle sœur, tel pays, pour des choses bien précises? La Bible dit, vous ne demandez pas, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et même Jacques ose ajouter, inspiré par le Saint-Esprit, vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Donc des prières égoïstes qui ne peuvent pas plaire à Dieu et qui donc ne vont pas être exaucées. Alors tout cela nous montre que nous devons entrer dans la présence de Dieu, avoir un sujet bien précis, prendre le temps de nous adresser à Dieu, d'être en communion avec Dieu, et ainsi de nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Et nos prières alors deviendront vivantes, non stéréotypées, et jailliront du fond de nos cœurs. Avez-vous envie de louer le Seigneur ce matin? Est-ce que c'était dans votre cœur en venant offrir ce culte à Dieu? Car l'Église, c'est vous, c'est chacun de nous, pour offrir un culte qui rend grâce à Dieu. La deuxième chose que j'aimerais souligner est la suivante, la prière puissante et efficace, et bien sûr, c'est celle que nous voulons vivre, n'est-ce pas? Oui. Et celle qui persévère, qui agonise. J'aime bien citer, tant pis je me répète, mais Georges Müller avait deux amis pour lesquels il a prié 40 ans. Un de ses amis s'est converti juste avant la mort de Georges Müller et le second s'est converti juste après sa mort. Il ne l'a jamais su, du moins sur terre. Quoique dans le ciel, un jour, il le recevra. Il l'accueillera. Acte 12, verset 5, la Bible dit « L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » Il ne s'agit pas, frères et sœurs, des prières du bout des lèvres. Et j'allais dire en bordure du cœur. Il s'agit ici d'une prière qui est extrêmement tendue. Ici, le mot grec « ne cesser d'adresser » cesser à l'idée de prier d'une façon tendue à l'extrême. Le mot aussi pourrait être traduit par « fervente ». Il ne cessait d'adresser pour lui des prières, alors il y a l'idée d'une prière qui est fervente, une prière qui est ardente. D'ailleurs, en 1 Pierre chapitre 1 et verset 22, je vous lis deux passages en 1 Pierre qui montrent en fait ce qui est le mot « ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres ». L'idée ici, c'est que Dieu prévoit que l'amour fraternel soit sincère, authentique, mais aussi qu'il soit plein d'ardeur. C'est-à-dire que tout l'être se donne. Aimer un frère, c'est commencer, ou une sœur, bien sûr, c'est commencer à prier, mais c'est être prêt à se donner à l'autre, de s'oublier pour se donner à l'autre, mais c'est de façon, c'est une volonté qui s'engage. Vous savez, le Saint-Esprit nous conduit, mais ça n'exclut pas la volonté de l'homme sanctifié, de même son intelligence et certainement certaines émotions. Mais Pierre ajoute en 1 Pierre 4, verset 8, « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. » L'apôtre, le texte ici, nous donne le vrai sens de la prière. Et en fait, je vous lis un dernier passage pour illustrer ce mot. En fait, c'est la forme adverbiale, mais ça a la même racine dans le grec. C'est en Luc chapitre 22 et verset 44, lorsque le Seigneur Jésus priait. Il est écrit, étant en agonie, dans le jardin de Gethsémané, bien sûr, il priait plus instamment, et sa sœur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Étant en agonie, il priait plus instamment. Le même mot, c'est la forme verbale, ne cessait de prière. Le mot instance, j'ai regardé dans le dictionnaire français, avec instance, ça signifie avec sollicitation pressante. C'est comme demander quelque chose à quelqu'un qui ne peut pas nous refuser. Ça fait penser à Luc chapitre 18, la femme, la veuve, qui va vers le juge unique. « Fais-moi justice de ma partie. » Et elle a tellement insisté, malgré que le juge soit mauvais, que le juge a dit « Oh, celle-là, en québécois, on dirait, elle me tanassait, je suis assez fatigué d'entendre son discours, que je vais lui faire gain de cause. » On raconte une anecdote d'un missionnaire, David Briner, qui était missionnaire parmi les Indiens, dans le froid du Grand Nord, qui priait pour les Indiens. Il se mettait à genoux dans la neige. Et on disait que son effort physique dans la prière était tel que la neige fondait autour de lui par la chaleur qu'il dégageait de l'agonie de sa prière. Avez-vous déjà agonisé pour quelqu'un dans votre vie? Je dis, est-ce que tout votre être un jour s'est senti pris dans une prière comme si Dieu ne pouvait pas refuser l'exaucement? Un conjoint converti, un père, une mère inconvertie, un grand-père, une grand-mère, un enfant. John Knox, vous le savez, a dit « Seigneur, donne-moi l'Écosse où je meurs ». Et Dieu a fait un réveil extraordinaire en Écosse, au pays de Galles et dans d'autres pays. C'était extraordinaire. Les pubs se fermaient et les gens se réunissaient le dimanche, cessaient d'aller au café du coin ou au pub, s'enivraient. Il y avait une transformation dans les habitudes de vie des gens, de la société. Le réveil gagnait la société. Mais il y avait des hommes et des femmes qui se sont levés pour prier pour un réveil de façon intense, de façon tendue à l'extrême. Je pense à ce grand revivaliste Charles Finney qui allait dans différents endroits aux États-Unis, qui priait pendant des jours, des heures avant d'aller à un endroit. Les gens aussi priaient. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Les gens se jetaient à terre tellement convaincus de péché devant l'enfer, la vision de l'éternité, et se convertissaient tremblant devant Dieu. Oh, certainement, ce fut un mouvement du Saint-Esprit, mais toujours à la clé des hommes et des femmes de Dieu. John Alexander, le fondateur de l'Institut biblique de Genève, raconte le réveil au pays de Galles et comment le réveil a gagné l'endroit où il étudie à l'Institut biblique, comment les étudiants ont une vie complètement transformée. Vous savez, parfois, il faut le reconnaître, nous mettons des carapaces, une certaine même hypocrisie dans la vie chrétienne. On essaie de paraître ce qu'on ne vit pas, et finalement, nous manquons de puissance. Nous manquons de la puissance de Dieu. Il y a des hommes et des femmes que Dieu cherche pour se mettre à genoux et pour plaider la cause de Dieu sur terre et la cause du ciel, car il s'agit de la mort et de la vie, du ciel et l'enfer. Dieu cherche un homme, une femme, pour prier, intercéder avec intensité. Et même, Dieu cherche son Église. Il veut que son Église se réunisse pour prier. Il attend que ses brebis soient unis dans la bergerie, sous la houlette et le bâton du berger Jésus-Christ, pour intercéder, parce qu'il y a une puissance à prier ensemble. L'apôtre Paul disait ceci en Romains 15, 30, je vous le lis. Romains 15, 30, il dit ceci. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à croire que l'Esprit chérit la vie de prière en nous, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. À combattre avec moi. Donc cela signifie que la prière est un combat. lorsqu'il est écrit que l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières, elle était en train de combattre. Et c'est vrai que le combat peut paraître parfois difficile. Et entrer dans ce combat demande un effort sur soi-même, un abandon à Dieu, d'abord la confession de ses péchés, de sa convoitise, de ce qui pourrait empêcher la bénédiction de Dieu, afin de, par la puissance du Saint-Esprit, commencer à prier selon Dieu et non pas selon la chair. Mais cela demande quelque part un combat, parce que la chair voudrait nous empêcher de prier. Et mille et une pensées peuvent venir à notre esprit, ou mille et une choses à faire pourraient venir à notre esprit, lorsque pourtant Dieu nous appelle à prier. Parce que la vie de la prière est un combat qui demande tout le cœur. C'est pour ça que Paul disait en Thessaloniciens, priez sans cesse. En Éphésiens 6, il dit, priez par l'esprit. Persévérez dans la prière. Et Dieu est prêt à répondre. En Hébreux chapitre 5, nous avons l'illustration de la prière intense qu'a connue le Seigneur Jésus-Christ. Je vous le lis. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, à propos de Jésus-Christ comme sacrificateur, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Et même le texte ajoute, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. La prière intense du Seigneur Jésus-Christ est un exemple de la prière combative qui l'a amené à l'agonie jusqu'à voir des grumeaux de sang sur son visage. Je ne sais pas si nous sommes arrivés là, hein, frères et sœurs, mais certainement que l'Esprit de Dieu voudrait saisir son Église pour prier avec une telle intensité, afin que nous nous débarrassions de toutes les choses pour avoir en priorité Dieu, son plan d'amour et l'éternité, sachant que nous n'avons qu'une seule vie à vivre sur terre. Pour qui, pourquoi allons-nous la vivre? Spurgeon, dans son église, avait une pièce où les gens priaient, et c'était appelé la chaudière de l'église. Alors, plus il y a de charbon dans la chaudière, plus ça chauffe. Plus il y a des croyants qui viennent prier ensemble, plus la chaudière est intense et plus le feu, c'est une illustration avec ses limites, le feu de l'esprit descend sur son peuple. Ça demande une fidélité. Ça demande vraiment de venir humblement et de se mettre au pied du Seigneur. Il y a un pays qui a compris cela. C'est la Corée du Sud. Si vous connaissez un peu l'histoire de l'Église de la Corée du Sud, il y a Kurkok, un théologien, un psychanalyste, docteur en théologie, qui a visité la Corée comme prédicateur. Et on l'a invité à une réunion de prière qui se tiendrait à 5 heures du matin. Il a dit, oh là 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 là, qu'est-ce que ces gens sont étranges. Il s'est dit, il avait entendu parler qu'il se passait des choses en Corée du Sud. Il s'est dit, oh, on l'amène, il se lève en difficulté, puis il a préparé quand même une méditation, il a demandé de présider la réunion, il s'est dit, bon, il y aura 4 tondus et 2 pelés, j'y vais quand même. Il arrive à un bâtiment sous la pluie froide, un bâtiment avec sans fenêtres. Le vent passait à travers, il dit, mais qui va être là pour prier? Il rentre, il monte les escaliers, il va à l'étage, et là on lui ouvre des portes. 3000 personnes déjà étaient en train de prier. Il a dit, moi qui venais pour enseigner, j'ai eu la plus grande leçon de ma vie. Moi qui étais là, qui avais été choisi comme animateur, j'ai été brisé de voir tous ces gens en train de prier. La raison d'être de leur prière fervente est exaucée aujourd'hui. Ils étaient menacés par la Corée du Nord, le communisme, qui voulaient envahir leur Corée du Sud et qui auraient perdu toute liberté de la foi et la liberté dans l'Église. Ils se sont mis à genoux et Dieu, regardez bien, les a préservés. Et je dirais même, et j'honore Dieu pour cela, Dieu les a bénis de façon extraordinaire dans leur économie qui a progressé de façon extraordinaire parce qu'ils se sont mis à genoux. Et Dieu fait des grands miracles en Corée du Sud, parce que ce sont des hommes et des femmes qui se sont mis à genoux pour prier. J'aimerais, ça me vient à l'esprit, vous donner l'exemple d'une dame, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais bon, c'est enregistré, ça servira comme illustration. En fait, une dame, je peux dire son nom parce qu'elle a témoigné ça en public à Québec, à l'église de Beauport, qu'on a eu la joie de visiter, avec certains d'entre nous ici. Et en fait, Madame Richard, convertie, son mari l'a mis dehors. Il m'a mis d'abord dehors à moi, en tant que pasteur. Il m'a injurié en pleine rue, il m'a foutu dehors de sa maison, fichu dehors, je ne sais pas comment on dit. Et finalement, un jour, elle est arrivée à la maison. Son mari avait détruit tout le sous-sol de la maison à coups de hache. Alors, les jeunes diraient, il avait pété les plombs, je ne sais pas comment on va dire. Mais en tout cas, ceci dit, un homme violent, dérangé certainement. Et elle s'est retrouvée toute seule. 5 enfants. Elle est venue à la maison, on l'a entourée. Et Madame Richard, un jour, est venue confesser dans mon bureau son histoire, qui était bouleversante. Elle m'a dit, Monsieur Viguier, je dois vous dire quelque chose. Le Seigneur m'a convaincu de péché. Avant de me marier, j'étais enceinte. Et mon futur mari m'a imposé de cacher cela. Donc j'ai dû aller en campagne, me cacher. Et ainsi, j'ai eu un fils aîné que j'ai dû remettre à des bonnes sœurs à Québec, que je ne connais pas, pour cacher cet opprobre devant la famille. Et ainsi, ensuite, j'étais mariée. Elle avait eu 5 enfants. Mais entre mon mari et moi, il y a toujours eu cette zone ici, grise, ce voile. Et je lui ai toujours dit qu'il fallait retrouver cet enfant. Il a refusé, il m'a menacé. Et maintenant, le Seigneur me met à cœur de prier pour que je retrouve mon fils. On a prié, elle s'est assise dans le bureau. On a prié, on a loué le Seigneur parce que Dieu avait travaillé dans son cœur. Le Canada, c'est vaste. C'est moins peuplé que la France. Mais entre les deux bords, n'est-ce pas, c'est très vaste le Canada. Comment rejoindre un enfant laissé il y a 30 ans, 40 ans, même peut-être plus, je ne me souviens plus de son âge, retrouver un enfant? Elle a prié, elle a fait des recherches. Et quelques mois plus tard, elle a retrouvé son enfant qui ne vivait qu'à 20 km de son lieu d'habitation. Et elle a pu ainsi y annoncer le plan du salut. La prière du juste et d'une grande efficace. À Daniel, on l'a déjà vu ensemble, mais rappelons-le, chapitre 9, verset 3, il est écrit que Daniel tourna sa face vers Dieu, vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Soulignons le mot jeûne, il a pris le temps de prier. C'était aussi une prière ardente, avec ferveur, avec sollicitation présente, de façon efficace. Et il a été exaucé. Nous savons que le peuple juif est retourné dans son pays à cause de la promesse en Jérémie, où Dieu avait dit qu'ils seraient prisonniers 70 ans en captivité, puis qu'ils reviendraient dans leur pays. Juste un petit tour rapide, parce que ce n'est pas le sujet de ce matin, mais remarquons dans la vie des Actes, par exemple, Actes chapitre 14, et verset 23, il est écrit, ils désignèrent des anciens, je vous lis le passage, ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Le jeûne et la prière étaient une habitude commune dans la vie des apôtres et des disciples de l'église primitive. Un autre exemple extraordinaire qui fait énormément réfléchir aujourd'hui, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Dieu, le Saint-Esprit, a suscité dans ce groupe de frères qui étaient en train de prier et qui étaient engagés dans le ministère, de mettre à part Paul et Barnabas, Saul et Barnabas. Eh bien, si ces frères n'avaient pas été dans la prière, Dieu le Saint-Esprit ne les aurait pas conduits. Ils ont mis à part, parce que Dieu leur a demandé, Saul et Barnabas, qui sont partis en mission, et de là est née l'œuvre missionnaire de l'Église primitive, qui a révolutionné le monde d'alors, où Paul, avec ses équipiers, a fondé des églises, est retourné, a fait 3 voyages missionnaires, prêt à mourir pour le Seigneur. Mais tout cela est venu dans la prière. En fait, la prière efficace est une prière qui demande tout notre être. Et j'aimerais juste faire une petite remarque, ça n'a rien à faire avec le légalisme. Si nous prions parce que nous devons prier, si nous prions parce qu'il faut prier, certainement ce n'est pas mauvais, mais si nous nous imposons la prière comme quelque chose qui est forcé, ça ne plaît pas à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est la foi. Nous devons prier parce que nous avons la foi. Nous devons prier parce que nous avons la joie d'entrer en communion avec Dieu. Nous devons prier parce que Dieu nous le demande, parce que l'Esprit Saint en nous ne demande qu'une chose, c'est de prier. Quoi que ce soit qui arrive dans la vie chrétienne de bon et dans le ministère, service, diaconat, vient de l'Esprit Saint lié à la prière. Ne nous plaignons pas de ne pas être employés par Dieu. Plaignons-nous chacun, comme disait Jérémie, de nos propres péchés qui empêchent le service devant Dieu parce que, malheureusement, par un manque de prière. La prière est efficace. Parce qu'en fait, dans ce verset, Actes chapitre 12, verset 5, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Le mot clé ici, déjà mentionné, c'est le mot « Église ». Vous arrivez à prier certainement avec puissance tout seul. Mais j'ai remarqué que ma femme et moi, lorsque nous prenons le temps d'avoir un culte ensemble et nous prions ensemble, il me semble que Dieu est encore plus présent. Si on ajoute une troisième personne, une quatrième personne, si l'Église est en prière, alors il y a toute une bénédiction du Seigneur particulière, il y a plus de force. D'ailleurs, y a-t-il une promesse qui nous dit que Dieu bénit l'Église lorsqu'elle est unie dans la prière? Bien oui, en Matthieu 18, 19, il est écrit « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Mais oser carrément prendre un frère, une sœur, l'arracher de sa torpeur, dit « Viens prier avec moi ». Ne laissez pas un frère ou une sœur dans le sommeil spirituel et dans le manque de prière. Faites tout en famille, vos enfants, le conjoint, les grands-parents s'y sont sauvés. Réunissez-vous, priez, réunissons-nous, priez, car là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que Dieu a menti? Est-ce que Jésus nous a menti? Est-ce qu'il nous trompe? Lorsqu'il dit que deux ou trois sont là pour prier, il est au milieu. Est-ce qu'il nous a menti? Alors prions ensemble. Et soyons heureux d'être ensemble. C'est une joie d'être ensemble en tant qu'Église, en tant que famille de Dieu. Il y a une puissance dans l'unité, frères et sœurs. Et merci Seigneur, parce que je louais le Seigneur dans mon cœur. Alors qu'on était en train de chanter ce matin, il me semble que c'était beau devant Dieu. Et merci au groupe de louanges qui nous a amenés à la présence de Dieu par ses chants, à adorer le Seigneur comme une belle chorale, une église qui chante à la gloire de Dieu. Qui chante et qui parfois vit des moments difficiles, comme l'église primitive. Et je vous invite à tourner, on va terminer avec ça, en Actes chapitre 1. Ces forces-là, frères et sœurs. Actes 1, verset 14. Allez, on va arriver à terminer. Actes chapitre 1, verset 14. Tous. Alors attendez, quand Dieu a inspiré le Nouveau Testament, est-ce qu'il a dit exactement la vérité? Ouais. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Il n'est pas dit tous, mais il manquait Paul, Jacques, Pierre, celui-là. Non, tous. D'un commun accord. Pourquoi ils étaient tous? Parce qu'ils étaient d'accord d'être ensemble. Amen. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils étaient unis en pensée, unis en action, unis en prière. Amen. Chapitre 2, verset 1. Nous allons assister à un miracle. Chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Dieu leur a dit, Jésus leur a dit qu'ils recevraient le Saint-Esprit, qu'ils devaient prier. Ils se sont mis d'accord, ils ont cru dans la promesse de Jésus. Toute prière doit se baser sur une promesse. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Qu'est-ce qui arrive ? La venue du Saint-Esprit. Écoutez, je n'aurais pas aimé manquer à cette réunion de prière. Voir la puissance du Saint-Esprit descendre pour la première fois et baptiser du Saint-Esprit dans le sens vrai du terme, faire naître de nouveau, c'est ça le mot baptême, hein. 1 Corinthiens 12, 13, a été baptisé dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est la naissance de l'Église par la venue du Saint-Esprit. C'est le jour de la Pentecôte. Promis, c'est vrai. Je n'aurais pas aimé manquer cette réunion. Et si on tourne un peu plus loin, au chapitre 2 et verset 41, il est écrit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ». Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Vous voulez le résultat d'une prière efficace ? Ils étaient 120 dans la chambre haute. Les jours suivants, 3000 âmes sauvées. Il y a le principe. L'unité dans la prière amène un résultat efficace. Ce n'est pas fini. Regardez avec moi, acte 4, verset 4. Une autre discours de Pierre. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. C'est écrit des hommes. Il y avait des femmes, il y avait des enfants. Vous vous rendez compte, le réveil, parce que 120 personnes se sont mises à prier selon la promesse de Dieu. Et comme ils savaient l'efficacité de la prière, et lorsqu'ils ont été persécutés, au chapitre 4 et verset 29, lisez-le avec moi s'il vous plaît, chapitre 4 verset 29, « Et maintenant Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous, encore le mot tous, remplis du Saint-Esprit, ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Alors j'aimerais dire ceci, et il faut le dire de suite, vous ne devez pas venir à la réunion de prière parce que le pasteur vous le demande. Amène-toi. Vous devez venir à la réunion de prière, et le pasteur inclus, hein, pas parce que c'est son job là, mais parce que nous sommes ensemble en train de prier et nous voyons Dieu agir. Et c'est vrai, nous avons des réponses. Et je bénis le Seigneur que vendredi après vendredi nous prions et que nous voyons des réponses à la prière. J'aimerais dire ceci en reprenant le texte en Actes chapitre 5. Oui, la prière est efficace. D'ailleurs, Jacques dit ceci, Jacques chapitre 5 verset 16, je vous le lis, dans la traduction Darby, la fervente supplication du juste peut beaucoup. Dans la traduction Second révisée, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Cela veut dire que le problème, ce n'est jamais Dieu, c'est nous. Quand les prières ne sont pas exaucées, quand nos prières n'obtiennent pas de résultats, c'est parce que c'est nous qui sommes un obstacle, qui bouchons le canal de la bénédiction de Dieu. Et cela nous humilie, cela nous porte à nous humilier, à nous repentir et à nous tourner vers Dieu. Vous allez me dire, mais Dieu a répondu à l'Église. Pierre a été divinement libéré. Et c'est vrai que l'histoire de Pierre, écoutez, je ne sais pas si vous imaginez cela, un ange qui survint, la lumière qui se fait, les portes s'ouvrent automatiquement, les gardes, il y en a 16, ils ne voient rien. Et puis tout d'un coup, pauvre, Pierre est laissé dans la rue, l'ange le quitte. J'aimerais dire ceci, moi j'ai appris quelque chose en relisant ce texte, c'est que Dieu fait une part. Mais quand il a fait sa part, eh bien, il nous laisse responsables. Il a fait sa part. Il a délivré Pierre, après il l'a laissé dans la rue. Et je crois que Pierre, par le bon sens, et la réflexion de la prière a été dirigée par Dieu. Mais quelque part, ça montre ceci, c'est que quand Dieu agit, il agit de façon puissante, mais il fait sa part. Mais nous, est-ce que nous faisons la nôtre? Et c'est pas terminé. Pierre a été délivré, imaginez. Quand même, il frappe à la porte, tout le monde croit que c'est un ange, l'ange de Pierre, etc. C'était à la veille de sa condamnation. Ça me fait penser au verset qui dit que Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces, mais qu'avec la tentation, l'épreuve, il préparera le moyen d'en sortir. Combien c'est arrivé chez Pierre? Et souvent, on a arrêté le texte en Actes chapitre 5, Actes chapitre 12, on a arrêté le texte au verset 19. Et dans ma lecture personnelle, j'ai souvent fait cela. Mais reprenons le texte et concluons en disant ceci, verset 20, en lisant le texte, Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blast, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé de ver. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant avec eux Jean surnommé Marc. La prière a été efficace. Non seulement Pierre a été délivré, a fortifié la foi de ses frères et sœurs, mais comme Dieu répond au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, imaginez Hérode, la source du mal, liquidée. Son orgueil l'a rongé littéralement et Dieu l'a châtié, plus d'Hérode. Et qu'est-ce qui se passe? L'Église grandit, les disciples se multiplient et Saul et Barnabas qui ont assisté à tout cela s'en vont après avoir donné leur message. Quelles expériences! Quelles expériences! Prions. Ô notre Père céleste, nous réalisons combien notre vie de prière est faible, parfois si peu efficace. C'est une occasion que tu nous donnes en tant qu'individu, en tant qu'Église, de nous repentir. Ce n'est pas une institution, l'Église, ce sont des pierres vivantes. Et chacun de nous, nous sommes ton Église. Et ce matin, nous voulons nous repentir parce que nous manquons de prière. Nous passons beaucoup de temps à bien d'autres choses et dans des préoccupations et inquiétudes au lieu de nous mettre à genoux et de prier, d'intercéder. Pardonne-nous, Seigneur. Oui, la prière est efficace parce qu'elle s'adresse à Dieu dans sa présence, par son esprit. Elle est efficace parce qu'elle a un objectif précis. Elle est efficace lorsqu'elle est persévérante, qu'elle agonise, comme si Dieu ne pouvait pas ne pas répondre. Elle est puissante et efficace lorsque tous les croyants sont assemblés. Seigneur, oui, aie pitié de nous. Enseigne-nous à prier selon tes pensées. Et certainement, nous verrons de grands miracles de ta part et nous t'en donnerons toute la gloire. Amen. Amen.